appelé par Dieu. Parce que le Seigneur appelle des hommes, des femmes, des enfants à se lever pour lui. Amen. Et il vous a appelé. Et à chacun de nous, un appel particulier est lancé. Et ce matin, puisqu'on s'achemine vers Noël, eh bien, c'est l'appel de Marie que j'aimerais partager avec vous. Un bel appel, un très bel appel. Celui d'être la maman de Jésus, cet appel à accueillir en son ventre ce sauveur pour vous, pour moi. Et pour que ce salut soit tout à la fois Dieu et homme, il est conçu du Saint-Esprit et il est Dieu. Mais il s'incarne au travers de la génétique et de la biologie de Marie. Et on la dira bienheureuse pour toutes les générations à venir, parce qu'elle a répondu à l'appel du Seigneur. Alors, on veut prendre ensemble le chapitre 1 de l'évangile de Luc. Et on va lire un petit peu. Il y a donc deux évangiles qui nous relatent ça. Il y a Luc et puis il y a Matthieu. Matthieu va plus se focaliser sur Joseph et Luc sur Marie. Il y a, avant tout cela, un premier miracle, un premier appel, celui d'Élisabeth, la stérile, qui va enfanter dans sa vieillesse et qui est une parente de Marie. Et qui va se cacher pendant 5 mois. Et au 6e mois, verset 26, Luc 1, chapitre 26. Luc 1, j'ai dit chapitre, verset 26. Luc 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voilà. Alors, dans cet appel, première diapo, un appel placé sous l'empreinte du miracle. Effectivement, dans l'appel qui est adressé à Marie, il y a l'ange Gabriel qui est le messager de l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas toujours en envoyant un ange, n'est-ce pas? Mais là, c'est vraiment un appel placé sous l'empreinte du miracle avec l'ange qui vient, avec la conception virginale de Jésus. Et elle dit, mais comment ça arrivera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur moi. Et puis, qui avait été précédé par un autre miracle, la stérile qui enfante sa parente Élisabeth, voilà un appel placé sous l'empreinte du miracle. Et il y a des appels que Dieu nous adresse, où le Seigneur intervient miraculeusement, où le Seigneur nous appelle à partir de miracles qu'il opère. Je pense par exemple à notre frère qu'on a soutenu pendant qu'il était en mission à Madagascar, le frère Alexandre Lay. Voilà un homme que le Seigneur a suscité, a appelé au travers d'un miracle, lorsque, en revenant de boîte, avec des amis, ils ont eu un accident et tout le monde est mort sauf lui, mais le Seigneur a comme arrêté le temps dans cette voiture et Alexandre, dans ce temps arrêté, s'est tourné vers Dieu et a dit « Si je survis, je te donne ma vie et je te servirai toute ma vie. » Vous vous souvenez de son témoignage? Il a eu des séquelles physiques, mais le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur l'a sauvé. Et il s'est mis au service de Dieu. Voilà un exemple. Voilà un exemple d'intervention miraculeuse, d'appel sous l'empreinte du miracle. Et le Seigneur fait encore des miracles aujourd'hui. Et il appelle des hommes et des femmes, parfois, à travers l'empreinte du miracle. Ce n'est pas toujours le cas. Mon appel à le servir, à me lever, n'absolument pas sous l'empreinte du miracle. Dieu opère là où il veut et comme il veut. Et l'appel de Marie nous rappelle que Dieu est vivant, qu'il intervient, et que des choses incroyables et surprenantes viennent de sa main, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, peut-être le Seigneur a-t-il déjà fait quelque chose de miraculeux dans votre vie, et vous savez, vous vous dites, ça c'est, on pourrait toujours dire c'est le hasard, on pourrait toujours dire, mais je sais au fond de mon cœur que là le Seigneur est intervenu et qu'il a fait un miracle. Est-ce que le Seigneur, en en mettant cette empreinte-là, vous a adressé un appel auquel vous avez répondu ou auquel peut-être vous n'avez pas encore répondu. Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Seigneur, tu es intervenu. Est-ce que tu m'as appelé à quelque chose de particulier? Est-ce que j'ai répondu à ton appel? Et au travers de cet appel dont l'empreinte est miraculeuse, le Seigneur veut nous rappeler que dans la suite de tout ce à quoi il nous appelle, rien n'est impossible à Dieu. Deuxième point de l'appel de Marie. C'est la grâce qui lui a été faite. Et j'écris Marie, la rebelle à qui une grâce a été faite, point d'interrogation, et là vous dites, mais il a mal dormi, Adrien. On ne voit pas chez Marie de caractère rebelle, d'où est-ce qu'il nous sort ça? Bon, ben, c'est très simple, c'est la signification de son prénom. Marie signifie rebelle, rébellion, obstination. On est surpris, hein? Alors, on est vraiment surpris. Et c'est incroyable l'accent qui est mis dans le texte que nous avons lu sur la grâce qui est faite. Elle le dira dans sa prière. Elle se réjouit en Dieu, son sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Et l'ange Gabriel insiste sur la grâce qui est faite à Marie. Alors, bien sûr, on se dit, mais est-ce que Marie ne représente pas, n'est pas vraiment le symbole de tous ces hommes et ces femmes à qui Dieu offre sa grâce? Tout de suite, quand on pense à la grâce de Dieu qui est offerte aux pécheurs, on pense aux grands vrais pécheurs, les vrais méchants. Tiens, l'apôtre Paul, par exemple. Par exemple. C'est vrai. Il y a des gens dont la vie est caractérisé par des actions, des choix, des modes de vie vraiment rebelles contre Dieu. Et puis, il y en a d'autres qui, certainement comme Marie, sont des gens bien. Et j'imagine Marie, une fille sage, mais une fille sage au cœur rebelle. Et là, ça nous pointe vers tout un chacun où on se dit, ah, mais ça, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est vraiment presque comme si le paradis leur était réservé, vous voyez, par leur propre mérite. D'ailleurs, on appelle ça des propres justes, souvent. Mais Dieu a besoin de venir à bout des propres justes. Et il leur révèle le fond de leur cœur, qui est un cœur rebelle. Et ça, c'est souvent le cas des enfants de pasteurs, des filles de pasteurs, vous voyez, qui sont tout le temps lisses, qui sont gentilles. On va dire, elles sont bien élevées, elles sont gentilles, elles suivent le Seigneur. Tout ce que vous voulez. C'était le cas de ma femme, ça. Je le dis parce que c'était son témoignage. Mais à l'intérieur, si je me souviens bien de ce qu'elle m'a dit un jour, elle disait au fond de mon cœur, mais je savais qu'il y avait une capacité de rébellion, de péché, qui n'aura jamais été extériorisée. Hein. Marie n'est certainement pas devenue une fille qui tout d'un coup va péter une colère, va fuguer de chez ses parents, va va s'amouracher d'un garçon et va partir avec et va, et va, et va. Non. Non. Et pourtant, au fond de son cœur, comme son nom le porte, eh bien, toute gentille, toute lisse et tout agréable qu'elle soit, il y a au fond de son cœur une rébellion qui a besoin d'être mise à plat devant Dieu, qui a besoin d'être confessée, qui a besoin d'être pardonnée et résolue. Et je crois absolument que Marie, en grandissant, sans faire des grandes vagues, a vraiment rencontré Dieu dans son cœur, dans son âme, en tant que sauveur d'une petite fille sage qui en a quand même beaucoup besoin. Et elle exprime cela dans sa prière, où elle se réjouit en Dieu qui est son sauveur. Aussi parfaite, aussi gentille, aussi vertueuse soit-elle, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont des gentilles personnes, des gens bien. Mais au fond du cœur, il y a une obstination, il y a une rébellion, il y a quelque chose à mettre au pied du Seigneur, à lui céder, en confessant et en disant tout gentil que je sois, tout bien élevé, j'ai un cœur qui est capable de penser des choses pas jolies, qui est capable de concevoir, et j'ai besoin qu'il soit purifié, qu'il soit lavé. Et Marie est cette rebelle en ce sens, à qui une grâce a été faite. Et c'est un message merveilleux parce que la grâce, elle est faite aux grands comme aux petits pécheurs, elle est faite à des gens comme l'apôtre Paul qui étaient des hommes violents, qui respiraient la cruauté et le meurtre, dit-il, comme à des petites filles modèles que devait être Marie, mais dont la racine dans le cœur est la même et a besoin d'être purifiée là. Alors évidemment, la grâce qui est faite à Marie, ça ne se résume pas à ça. La grâce qui est faite à Marie, c'est une grâce qui élève celui qui est en bas. Et c'est ce qu'elle dit dans sa prière en disant: il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle n'était pas d'une famille qui, à cette époque-là, à ce moment-là, dans la société, avait pignon sur rue, était haut placée. Bien qu'elle soit dans sa lignée de descendance davidique, et certainement, comme beaucoup d'entre nous, on se dit, mais moi, je suis rien, je suis pas grand-chose. Je suis pas un grand, je n'ai pas d'éducation, et j'ai pas de grand talent. Eh bien, on veut se rappeler que Dieu n'est pas venu appeler parmi nous beaucoup de nobles, de puissants, mais qu'il se glorifie en appelant des gens simples et des gens faibles qui disent « mais moi je suis en bas ». Eh bien Dieu fait grâce, il appelle et il élève. Amen. La grâce qui est faite à Marie, c'est évidemment cet émerveillement de cette exclusivité, cette chose unique dans toute l'histoire de porter un enfant sans que la génétique d'un homme y soit pour quelque chose. Et c'est cette chose merveilleuse de dire, mais l'enfant que je porte, c'est Dieu qui se fait homme et qui va sauver son peuple de ses péchés. Il va être le sauveur. Et c'est moi qui le porte, dit Marie. J'en suis pas digne, j'en suis pas. C'est une grâce qui m'est faite. Un appel qui lui est lancé et qu'elle va accepter. Évidemment, cette grâce s'accompagnera de souffrance. Et je vous invite à lire en Philippiens 1, 29. Et c'est ce que Simeon lui dira, une épée te transpercera l'âme. En Philippiens 1, verset 29, il est dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'associe pas souvent à une grâce qui nous est faite. Le fait de souffrir pour Christ. On dit, mais moi, croire en lui, ça me suffit. Souffrir pour lui, eh bien, cette épître nous dit, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire, mais de souffrir pour lui. Et quelque part, c'est cette grâce toute particulière qui est faite aussi à Marie, de croire et de connaître ce Sauveur, en le portant, en l'élevant et en l'amenant à sa maturité d'homme, mais aussi de souffrir. Tout cela, c'est la grâce qu'elle accueille. Alors, bien sûr, c'est un appel qui remue. Un appel qui remue. Et Marie est troublée, nous dit le texte. Un mot qui signifie qu'elle est fortement inquiétée, qu'elle est remuée à l'intérieur. Lorsque l'ange s'adresse à elle, et oh là, il y a quelque chose qui remue et qui inquiète. Et Gabriel lui dira, ne crains pas. Il voit que ça la remue, que ça la trouble, que ça l'inquiète. Et il va avoir une parole de paix, de calme. Parole d'espérance, ne crains pas. Et c'est bien normal lorsque le Seigneur nous demande de nous lever, lorsqu'il nous appelle, c'est bien normal que ça nous remue, c'est bien normal que ça nous mette dans la crainte. C'est un chamboulement. Imaginez cette jeune femme. Elle était très âgée, mais elle est fiancée et puis voilà qu'un appel lui est lancé. Dieu l'appelle. Et ça remue et ça fait peur. Mais elle ne s'arrête pas à la peur. Et elle accueille cette parole de la part du messager de Dieu de ne pas craindre. Et le Seigneur nous dit à nous aussi, lorsqu'il nous appelle, ne crains pas, crois seulement. Mais c'est normal d'être remué. N'en restons pas notre crainte. Mais passons à la foi. Et c'est un appel auquel elle croit, croire à l'appel de Dieu. La parole nous le rappelle, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Marie va croire à l'appel de Dieu et aux choses miraculeuses qui l'accompagnent, ce qu'on n'aura pas fait Zacharie. Quand l'ange lui dit « tu vas avoir un fils », etc., alors là, il n'y croit pas. Il dit « comme tu n'as pas cru, tu veux un signe, ben, tiens, tu seras muet ». Mais Marie, elle croit. Et c'est ce qu'Élisabeth relate au verset 45. « Heureuse celle qui a cru ». Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Quand le Seigneur appelle, eh bien, notre foi doit être au rendez-vous de son appel. Et c'est cette foi qui va dépasser la crainte, ce remuement à l'intérieur, cette peur. Ne crains pas, crois seulement. Et pourtant, ce n'est pas rien. Si on regarde la diapo suivante, il faut que Marie soit prête à renoncer à ses rêves pour entrer dans le projet de Dieu pour elle. Et ça, c'est peut-être l'une des choses les plus extraordinaires dans l'appel de Marie. Là, à ce moment-là, il faut qu'elle soit prête à tout perdre. On lui dit, voilà, tu vas devenir enceinte. Et elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Ou tu vas quand même devenir enceinte. Alors là, tu tombes la face parce que tu es une jeune femme fiancée, tu vas être enceinte et tout le monde autour de toi va croire que tu as trompé ton fiancé. Que tu es quelqu'un qui, sous ces petits airs de petite fille sage, eh bien, ne l'est pas du tout. Et Marie, elle est face à une situation où sa réputation va être en jeu. Elle est face à une situation où Joseph, il risque de pas trop apprécier ça. Il risque de la répudier. D'ailleurs, c'est ce qu'il voulait faire, n'est-ce pas? Il voulait le faire correctement, sans heurts ni fracas, sans violence et avec autant d'amour qu'il pouvait face à quelqu'un qu'il pensait avoir été déloyal. Mais néanmoins, c'est tous ses rêves. Alors, on pense à quelqu'un qui a trouvé l'amour de sa vie. Et qui projette de se marier, qui dans sa tête a construit, il dit ah, j'aurai des enfants puis là et on s'installera là et ah, le mariage j'ai déjà choisi ma robe et parce que quand il y a des fiançailles ça veut dire qu'on est en train de préparer le mariage quand même hein, donc des tas de préparatifs en cours qui sont là et bon vous connaissez tous ces films hein. Tous ces films de filles. Ben oui mais. C'est la vie, c'est les rêves, c'est comment on se projette, c'est comment on se construit. Et là, Dieu l'appelle. Et dans cet appel, ben, tout ça risque d'être perdu. Marie ne sait pas vers quoi elle va. Marie ne sait pas. Mais elle est prête à renoncer à ce qu'elle pensait, elle, construire. Elle y est prête pour entrer dans le projet de Dieu pour elle, parce que le projet de Dieu est meilleur que ses projets, ses rêves. Et c'est là qu'est la foi. Elle croit, heureuse celle qui a cru, elle croit que le projet de Dieu dépasse. Même si à l'œil, on y perd tout, ou on risque de tout perdre, croit que le projet de Dieu est bien meilleur. que ses chemins à elle. Et elle a cette merveilleuse parole du verset 38 qui clôt, qui est cette parole de réponse à l'appel de Dieu. De Dieu qui ne la contraint pas, qui ne la force pas à entrer dans un projet dont elle ne veut pas. Mais Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie accepte l'appel du Seigneur, aussi difficile et inquiétant soit-il, mais sa foi est au rendez-vous. Elle est prête à renoncer à ses propres chemins pour ceux de Dieu. Et elle répond oui. Ça nous interroge sur ce à quoi Dieu nous appelle. Est-ce qu'il m'appelle à renoncer? Ou peut-être parce que des fois, vous savez, quand répondre à l'appel du Seigneur, c'est être prêt à renoncer, puis au final, Seigneur, laisse tout. Mais on est prêt à renoncer. Je pense encore à la grand-mère d'Esther lorsqu'elle était jeune. Elle reçoit l'appel du Seigneur pour être missionnaire, mais elle ne voulait surtout pas de l'Afrique. Surtout pas de l'Afrique. Et elle sentait ce combat. Jusqu'à ce qu'elle dise bah, Seigneur, si tu veux m'envoyer même en Afrique, j'accepte d'y aller. Et puis très rapidement, dans la suite, eh bien, finalement, elle est restée aux États-Unis et avec son mari, ils ont fondé plusieurs églises. Son ministère a été aux États-Unis, mais elle avait été prête à aller là où elle n'avait pas envie d'aller. Et c'est ce que Marie fait. C'est aussi en partie la réponse que Dieu donnera, puisque il travaillera au travers d'un songe et d'un ange le cœur de Joseph qui va rester à ses côtés, qui va la soutenir, qui va l'épouser, qui va prendre soin d'elle. Et elle aura cette vie avec son Joseph, j'ai envie de dire, tout en étant dans le projet que Dieu, auquel Dieu l'a appelé. Amen. Dans cet appel, elle se tourne, c'est un appel qui est soutenu par la bonne personne. Et le Seigneur aussi permet, lorsqu'il appelle à nos appels, d'être soutenu. Et il place souvent les bonnes personnes sur notre chemin. Là, Marie, dans cet appel qui est le sien et qui remue néanmoins, c'est pas vers Joseph qu'elle se tourne parce que Joseph n'a pas encore été visité, travaillé, mais elle se tourne vers quelqu'un qui puisse soutenir son appel, et c'est sa parente Élisabeth. Et hop, Marie se lève, elle part, elle va dans un village des montagnes, là où il y avait Zacharie, Élisabeth, et elle entre chez Élisabeth. Et elle se tourne vers quelqu'un que Dieu a préparé pour soutenir son projet. Et à peine franchit-elle le seuil de la porte que elle reçoit de la part de Dieu ce soutien incroyable. Imaginez son inquiétude lorsqu'elle sait maintenant qu'elle est enceinte, que ça va commencer à se voir au fur et à mesure, etc. Et de se dire, mais attends, je suis la seule, on va me prendre pour une illuminée. Même pas une illuminée, une menteuse. Imaginez le réconfort, le cœur lorsqu'elle franchit le seuil et sans avoir adressé une seule parole à Élisabeth, sans avoir rien dit. Élisabeth, elle entend dire bonjour, elle entend la salutation et d'une voix forte, parce que le Saint-Esprit l'a saisie. Elle dit, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Par le Saint-Esprit, elle sait qu'elle est enceinte. Marie n'a rien dit à personne. et elle lui dit, tu es béni. Elle confirme, elle conforte cet appel de Dieu, elle soutient cet appel. Le Seigneur soutiendra toujours l'appel qu'il nous adresse lorsqu'il a besoin d'être soutenu. Amen. Et ça, c'est parce que Dieu est fidèle. Et il soutient. Alors, levons-nous pour ce à quoi Dieu nous appelle et sachons que lorsque cet appel aura besoin d'être soutenu, conforté, le Seigneur le fera. C'est un appel confirmé. La diapo suivante nous invite à considérer que Dieu va donner des confirmations de son appel. Parfois, on se dit, mais est-ce que c'est moi qui rêve? Est-ce que c'est moi qui me fais une idée de l'appel de Dieu? Et parfois, c'est le cas. Parfois, on se fait une fausse idée d'un appel que Dieu nous aurait lancé et qui n'est pas confirmé. Un appel, Dieu le confirme. Et ici, l'appel de Marie va être confirmé par deux personnes, par deux choses. Évidemment, la première personne, c'est Élisabeth. Élisabeth qui confirme à Marie l'appel qu'elle a reçu. Le fruit de son sein qui est béni, le fait qu'elle soit la mère de son Seigneur, c'est incroyable cette expression, hein, Élisabeth qui dit « Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Mais ce ne sera pas la seule manière dont Dieu va confirmer l'appel, il le confirme aussi avec Joseph. Parce qu'à Joseph aussi, Il le visite, il lui confirme l'appel de Marie. Et si vous remarquez bien, à chacun sans qu'ils aient eu besoin de se parler, ni Marie ni Joseph, tous les deux savent quel prénom ils donneront à l'enfant. Ils ont reçu le même prénom. À Marie, Gabriel dit, tu l'appelleras Jésus. Et quand on va dans l'évangile de Matthieu, à Joseph, il dit, tu l'appelleras Jésus. Et Dieu confirme ainsi les appels. Et ça, c'est quelque chose pour nous auquel nous devons être vigilants. Comment est-ce que Dieu confirme là où il me demande de me lever? Et il le fait. Nous terminons, c'est le dernier point, avec un appel que Marie mène vers la confiance, la joie et l'adoration. Alors, j'ai envie de dire que tout appel de Dieu devrait mener vers la joie, la confiance et l'adoration. Parce que lorsque Dieu appelle, eh ben, en soi, ça se suffit à soi-même pour qu'en rentrant dans le projet de Dieu, nous en soyons heureux, joyeux et confiants. Amen. Néanmoins, ça doit rencontrer dans nos cœurs ce qui va céder. Il y a une résistance parfois. Il y a une crainte ou un manque de foi. Et c'est pour ça que j'écris un appel que Marie mène. Parce que c'est l'appel en soi-même qui mène à la joie. Néanmoins, ça rencontre le cœur d'une jeune femme qui va mener cela vers la joie et qui aurait pu rester dans la crainte tu aurais pu rester dans peut-être la rébellion. Hein? Ben non, moi j'ai mes projets de vie, dis donc, c'est quoi le. Et mes projets, moi, et ma vie, et mes rêves. Eh bien, non, Marie va accueillir ce projet avec confiance. Et moi, je suis assez abasourdi hein, de voir la confiance et la prière de joie de Marie, ce qu'on appelle le Magnificat, qui débute au verset 46. Quand elle dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ouais, bah, elle n'a pas parlé à Joseph encore. Hein. Va falloir voir comment il va l'accueillir. Hein. Va falloir voir comment les gens autour vont l'accueillir. Et vous voyez, ce n'est pas la crainte ni l'inquiétude qui remplit son ciel intérieur. Et plus tard, on ne sait pas exactement comment. Est-ce que c'est elle qui va le dire à Joseph? Est-ce qu'il y aura un intermédiaire? Que sais-je? En tout cas, dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que il devient manifeste, ou d'une manière ou d'une autre, Joseph apprend qu'elle est enceinte. Et, comme on dit, un peu les boules, quoi. Hein. Voilà. Marie n'est pas envahie par les difficultés, par l'opposition, par les craintes. Mais elle mène l'appel de Dieu vers la confiance. La confiance, elle sait que Dieu a un projet et la confiance que Dieu amènera ce projet à bonne fin, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Elle le croit, elle fait confiance, et c'est un appel qu'elle mène vers la joie, et qu'elle exprime au Seigneur dans une prière d'adoration. Alors puissions-nous aussi mener les appels que Dieu nous lance vers la confiance, la joie, et l'adoration. En conclusion, on voit que l'appel de Marie vérifie tous les points que nous avions évoqués l'été dernier sur l'appel de Dieu en général. La nature de ceux qui sont appelés. Dieu n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marie la rebelle, à qui une grâce est faite. Il n'a pas appelé parmi nous beaucoup de nobles, beaucoup de puissants. Et il jette des yeux sur la bassesse de sa servante et il l'élève. Il y a la nature de celui qui appelle. Car celui qui vous a appelé est fidèle. Dieu, du début à la fin, dans l'appel de Marie, il est fidèle. Et sa fidélité se voit au travers d'Élisabeth, au travers de Joseph. Il y a un appel commun à tous ceux que le Seigneur appelle. Il les appelle à la sanctification. Il les appelle à la liberté. C'est ce que vit Marie, la liberté. Il les appelle à la communion de son Fils. Quelle réalisation plus intime que la communion de son Fils pour Marie, n'est-ce pas? Il les appelle à souffrir pour Christ. Ça fait partie aussi de la grâce qui est adressée à Marie. Mais il y a les promesses qui accompagnent l'appel. Et les promesses accompagnent celui de Marie. Alors, l'appel de Marie n'est pas le nôtre. C'est un appel unique, exclusif dans l'histoire. Mais le Seigneur nous dit que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Et Marie nous a montré un beau modèle à suivre. Amen. Et prions. Seigneur, on veut te remercier pour ce bel exemple de ta servante. Et oui, Nous sommes, nous la disons, bienheureuse, parce qu'elle a accueilli ton projet, aussi bouleversant soit-il. Nous sommes touchés, Seigneur, de voir comment cette jeune femme te connaissait suffisamment pour te faire confiance, pour se reposer en toi et être prête à renoncer à ses propres chemins, peut-être à ses rêves. Elle était prête à faire une croix dessus si besoin pour rentrer dans ton projet. Sans amertume, sans rébellion, mais avec confiance et joie. Seigneur, suscite dans nos cœurs cette même confiance, joie et adoration pour l'appel que tu nous adresses. Et nous voulons tout à nouveau, Seigneur, nous rappeler que tu adresses à chacun de nous un appel et que tu nous invites à marcher selon l'appel que nous avons reçu. Aide-nous à imiter Marie dans sa réponse, dans son chemin. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.